Kiosque Magazine.
Oui, bonjour. On est aujourd'hui mardi le 31 mars. André, c'est toi qui ouvres.
Ah oui, c'est moi qui dois ouvrir, c'est vrai. J'ai complètement oublié, excusez-moi.
Bonjour.
Alors,
André.
Bonjour Marie. Nous sommes donc le mardi 31 mars et en l'absence de Michel qui est en vacances encore. C'est moi donc qui devais faire l'ouverture, mais je vais la faire. Alors, je vous présente donc notre émission comme animateur Marie, qui nous a déjà dit bonjour.
Bonjour.
Et Yvan.
Et bonjour André.
Alors Marie, de quoi vas-tu nous parler?
Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler d'abord de l'éléphant d'Afrique qui est menacé. Et dans un deuxième temps, je vais vous raconter ou parler de la possibilité ou la non-possibilité de voyage sur Mars.
Oh oh!
Oh oh!
Et toi, Yvan?
Ben, si Marie parle de voyage sur Mars, moi, je vais vous parler de voyage, mais en Suède.
Pour vrai?
Oui, mais pas à Stockholm.
Ça, c'est surprenant, hein? Parce que quand on pense Suède, on pense forcément à Stockholm.
Mais
hein?
Ça ne sera pas à Stockholm. Ça, c'est en deuxième partie, c'est mon deuxième article. Mon premier, c'est une rencontre assez étonnante avec Naomi Klein, qui est une journaliste canadienne, qui va nous parler de capitalisme et changement climatique.
Parfait.
Et toi, André, je pense que tu as plusieurs petits articles aujourd'hui.
Oui, alors moi, j'ai plusieurs petits articles. Le premier, c'en est un qui parle de la plus grande centrale solaire du monde qui vient d'être mise en service. Et dans le même segment, une percée dans la technologie des piles rechargeables. Dans la seconde partie de notre émission, je vais donner quelques trucs pour voyager débranché, puisque Marie et Yvan vont partir en vacances.
Oui, la semaine prochaine.
Mm-hmm. Et le coût d'un bagage de 24 kilos à bord d'Air Canada.
Ça ne concerne pas, par exemple.
Bon. Ça vaut mieux.
Alors, on se lance. Alors, pour mon premier article, je vous parle de Naomi Klein, « Changer pour de bon ». C'est un article écrit par Natalia Vysoka le 13 mars 2015 dans le journal Métro. Dans son nouveau livre « Tout peut changer », Capitalisme et changement climatique, la journaliste militante Naomi Klein appelle l'humanité à se regrouper, à se serrer les coudes, à tenir tête pour changer la planète, même si beaucoup de mal a déjà été fait. Peut-être bien que les gens convaincus que le réchauffement global est un mensonge éhonté ne plongeront pas dans la lecture de cet essai. Et alors, semble dire l'engagé reporter, à quoi bon les attendre? De toute façon, c'est maintenant qu'il faut agir. Tout peut changer. Tout aurait pu changer aussi. Si seulement, si les gouvernements, y compris celui des États-Unis, avaient entrepris de réduire leurs émissions de polluants dès l'instant où le consensus scientifique sur la question climatique a émergé. Si Obama avait saisi l'occasion historique de stabiliser à la fois le climat et l'économie à la suite de la crise de 2008. Si le mouvement environnementaliste n'avait pas été aussi accommodant à l'époque de la signature de l'ALENA, si tout ça, l'économie mondiale n'aurait peut-être pas connu une croissance aussi fulgurante, mais elle n'aurait sans doute pas précipité l'humanité dans le gouffre climatique aussi rapidement. Ce troisième livre, auquel la journaliste canadienne a consacré 5 ans de sa vie, est aussi le plus difficile qu'elle ait jamais eu à écrire.
Ben, ça fait beaucoup de si, hein? Ces phrases-là, celles où elles résument toutes ces chances manquées pour pallier la crise du climat, est-ce qu'elles étaient les plus dures de toutes?
Après une pause, Naomi Klein sourit et répond au reporter « Oui, sans l'ombre d'un doute, en fait. Reste que, malgré ses regrets ressentis face aux échecs du passé dont elle fait état, ceci n'est pas un livre colérique. Les seuls moments où j'ai éprouvé des émotions similaires, ce sont justement ceux où je sentais qu'on avait eu à prendre de grandes décisions et qu'on aurait pu en prendre d'autres. J'ai inclus ces rappels dans le livre pour souligner qu'il est possible de changer le système, que le système n'est pas comme les lois de la nature, qu'il n'est pas immuable. Je n'ai pas revisité ces moments pour faire « Ah, je vous l'avais dit », mais pour montrer qu'il y avait eu une série de choix et qu'il y avait eu des gens qui les ont faits. Le lecteur, lui, sent au fil des chapitres à quel point la crise du climat est un sujet qui éveille un éventail d'émotions. Naomi Klein elle-même, qui ne se place pas en observatrice insensible du débat, confie avoir traversé, en le creusant, un cocktail fait d'angoisse, de peine et de panique. Au départ, c'est même le déni qui a caractérisé sa quête. Elle ne le cache pas, elle ne voulait pas aborder la question du changement climatique. Puis, elle n'a pu détourner les yeux. Je pense que lorsqu'on essaie très fort d'éviter un sujet, il y a un soulagement qui vient lorsqu'on se décide enfin à en parler. Reste que la raison pour laquelle elle confie toutes ces choses personnelles dans le livre, ce n'est pas parce que je pense que mes expériences sont universelles, mais bien parce que je crois qu'aborder ce sujet d'un angle personnel permet de créer un espace où tout le monde peut penser à sa propre vision de la chose. Mais bien sûr, tout comme les expériences, les perceptions ne sont guère universelles.
C'est vrai, hein? Il y a même des gens qui ne croient pas encore au changement climatique.
Et oui, puis elle nous donne l'exemple de Stan Cox, un généticien des plantes qui a signé l'essai « Losing Our Cool », dans lequel il s'est positionné contre l'utilisation abusive de l'air climatisé, se désolant que l'invention ait signé la fin de la culture de la véranda. Les voisins ne se réunissant plus dehors pour échapper à la chaleur, mais se terrant chez eux dans leurs pièces rafraîchies par la clim. Quand son livre est paru, Stan a écrit un papier dans le Washington Post, « The Case Against Air Conditioning », en liant le recours exagéré à l'air climatisé au changement climatique. Par la suite, il m'a montré, on parle de Naomi Klein, tous les courriels haineux qu'il a reçus. « Je n'ai jamais vu une chose pareille. La quantité de vitriol. » Un gars lui avait même écrit « Vous arracherez mon thermostat de mes mains froides et mortes. » C'est là que j'ai réalisé que ce débat n'est pas une question de science, c'est une question d'identité. Dans les derniers chapitres, le vécu de Naomi Klein fait écho au thème qu'elle a creusé avec force détail. Elle raconte notamment ce syndrome de pré-perte, caractérisé par la crainte d'une catastrophe écologique imminente qui l'a atteinte. Elle dit ainsi avoir été incapable de voir un cours d'eau sans imaginer la pellicule huileuse à sa surface, ou encore s'être imaginée en vieille femme flétrie par les années, décrivant ce poisson magnifique qu'est le saumon à un enfant vivant dans un monde d'où cette espèce aurait disparu. « Oh mon Dieu, c'est tellement déprimant », pouffe-t-elle quand on lui cite ses extraits. Trop longtemps, on a laissé les climatologues, les scientifiques sonner l'alarme, se dépatouiller seuls avec cette mission. Des êtres comme le professeur et spécialiste de la fonte des glaciers, M. Lonnie Thompson, qui sortent dans les médias par conscience professionnelle, convaincus du danger réel et immédiat du réchauffement pour la civilisation. Des gens qui ne sont guère portés sur l'envolée lyrico-apocalyptique et qui, comme le rapporte Mme Klein dans le livre, seraient beaucoup plus à l'aise à travailler dans leur laboratoire ou à recueillir des données sur le terrain qu'à donner des interviews à des journalistes ou à témoigner devant des commissions parlementaires. On leur en a mis beaucoup sur les épaules, mais elles pensent que dans cette lutte, on a besoin de tout le monde. On a besoin des politicologues, des sociologues, des féministes, des psychologues, des artistes. De tout le monde. Les climatologues font leur boulot, nous devons maintenant faire le nôtre. C'était des extraits de l'article « Naomi Klein, changer pour de bon » écrit par Natalia Visoka le 13 mars 2015 dans le journal Métro.
Alors, je vous avais promis donc un article que j'ai lu pour vous sur la plus grande centrale solaire du monde qui vient d'être mise en service. L'article est extrait de notre Planète Info Actualité du 9 janvier 2015. Avez-vous une idée de l'endroit où elle est, cette centrale solaire?
Pas du tout.
Absolument pas.
En Californie, en plein désert. et elle s'appelle Topaz. Elle vient d'être connectée au réseau électrique de l'État et elle a été réalisée par une compagnie qui s'appelle First Solar et qui est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de panneaux solaires. Et sa construction a débuté en 2011.
Oh! Et puis, quelles sont ses spécificités à cette centrale solaire?
Elle en a pas mal. C'est assez surprenant. En tout cas, moi, j'étais surprise. J'espère que vous allez l'être aussi. Mmh. Elle est capable de délivrer une puissance de 550 mégawatts. Et ceci, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire.
Quand même.
C'est quelque chose, hein, quand même. Parce qu'avec cette capacité de production, elle fournit suffisamment d'électricité pour alimenter 160 000 foyers. C'est pas mal, hein?
Mm-hmm. Tout à fait.
La surface qu'elle occupe, c'est 25 mètres carrés, c'est-à-dire, pour donner une idée un petit peu, c'est à peu près un quart de la taille de Paris.
C'est 25 kilomètres
carrés. 25 kilomètres carrés, oui, pardon, excusez-moi. Elle est composée de 9 millions de panneaux solaires. Mais les panneaux en question sont surélevés de seulement 1,7 mètres et l'article explique que la faible hauteur des panneaux limite l'impact sur le paysage. Elle a aussi un impact limité sur l'environnement parce que, contrairement à la plupart des centrales solaires, Topaz ne requiert pas d'eau pour générer son électricité et ne fait que très peu de bruit puisqu'elle n'a, par exemple, de partie mobile qui pourrait suivre le soleil. Il faut savoir, mentionne l'article, que l'État de la Californie vise à fournir 33% de son électricité domestique à partir de sources d'énergie renouvelable d'ici 2020. Et cette centrale devrait éviter l'émission d'environ 370 000 tonnes de dioxyde de carbone, c'est le CO2, hein, par an, soit l'équivalent de 73 000 voitures en circulation. C'est quand même impressionnant. Hein?
Très.
Sa construction a quand même coûté 2 milliards de dollars. Et l'article précise aussi qu'elle permet des bénéfices économiques importants, puisque notamment 400 emplois ont été dédiés à sa construction.
Est-ce qu'il y en a d'autres en perspective?
Alors, bon, pour le moment, Topaz, c'est la plus puissante centrale au monde. Mais dès la fin de 2015, elle devrait être dépassée par une autre ferme solaire en production qui, elle, va s'appeler Solar Star et qui va être produite par une compagnie qui s'appelle SunPower. Elle, elle sera équipée de 1,7 million de panneaux solaires et elle sera installée sur 32 km carrés. Solar Star sera d'une puissance de 570 mégawatts et elle servira, elle pourra desservir, elle, 255 000 foyers.
C'est presque 100 000 de plus que l'autre.
Oui, ça fait pas mal, hein?
Oui.
Quand même, 1,7 million de panneaux solaires, c'est quelque chose, hein, je trouve, hein? Alors, l'article, il précise quand même également qu'un rapport commandé par le gouvernement américain montre que le kilowatt-heure solaire pourrait devenir moins cher que le kilowatt-heure produit avec du gaz d'ici 2018. Et il rappelle que l'énergie solaire n'émet directement aucun polluant et ne produit pas de déchets. C'était un article dont la source est Notre Planète Info du 9 janvier 2015. Je vous avais promis un second article qui parle d'une percée dans la technologie des piles rechargeables. C'est extrait de la presse canadienne de Montréal du 24 février 2015 et il est écrit par Lia Lévesque. Alors, ce sont des chercheurs d'Hydro-Québec et d'un institut de Singapour qui viennent de réaliser cette percée technologique dans le domaine des piles rechargeables. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est perfectionner des matériaux qui composent ces piles de nouvelle génération en utilisant des silicates. Et ceci pourrait permettre en tout cas de doubler la capacité de stockage des piles par rapport à celles que l'on utilise actuellement, qui sont, elles, au lithium-ion à base, elles, de phosphate. Mmh. Actuellement, ces piles, elles alimentent plusieurs appareils électroniques comme les téléphones intelligents, les véhicules électriques et certains appareils médicaux. Alors, M. Zaghib, qui a un doctorat en électrochimie, explique que c'est l'aboutissement d'une dizaine d'années de travaux dans ce domaine et que ces silicates sont intéressants parce qu'ils servent au fonctionnement de ces piles, Ils sont des matériaux sécuritaires, on les trouve en abondance, ils sont peu coûteux, en plus d'être performants. Beaucoup de qualité, hein?
Oui.
Il ajoute aussi que c'est un matériau très intéressant pour les applications comme les portables ou l'électrification des transports.
Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'autres chercheurs qui aient réussi cette percée-là avec tous les avantages de ces silicates?
Ben, peut-être parce qu'ils ne les ont pas trouvés, mais M. Zaghi a expliqué en entrevue que la fabrication du procédé est compliquée et pas facile. Il croit pourtant que c'est une nouvelle technologie qui pourrait être développée et commercialisée de manière abordable dans un avenir pas si lointain. Actuellement, c'est Hydro-Québec et ses partenaires qui ont le brevet de base, mais il reste encore à optimiser le procédé et à augmenter le nombre des cycles de charge et de décharge des piles. Alors, s'ils réussissent, ils envisagent un horizon de 2 ans pour les appareils portables et entre 2 et 4 ans pour les véhicules électriques.
Non, mais on devrait être là pour utiliser ça.
Eh bien oui, c'est une chance, hein?
Mm-hmm. On devrait voir ça.
Voilà, donc c'était un article de la presse écrit par Lia Lévesque.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Gotta take the life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had." Dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Alors, un peu de nostalgie musicale, c'était le groupe Toto qui chantait la chanson Africa. Alors, une belle introduction pour le prochain article, dont le titre est « L'éléphant d'Afrique menacé à court terme par le trafic d'ivoire ». C'est un article de Christophe Beaudufay, en fait j'espère que je prononce correctement son nom, de l'agence France Presse qui a été publié le 23 mars. Si de très énergiques mesures ne sont pas prises immédiatement, l'éléphant d'Afrique pourrait, à court terme, disparaître à l'état sauvage. Victime du braconnage pour l'ivoire, ont averti des experts réunis lundi dernier au Botswana pour tenter de sauver cet emblématique géant. La chercheuse Dune Ives, merci Ivan, venue présenter les résultats des derniers recensements d'éléphants, y a déclaré « Dans 5 ans, il sera peut-être trop tard pour sauver cet animal magnifique. » Elle a déclaré ça devant des délégués d'une 20aine d'ONG et d'autant de gouvernements. Elle a martelé « Cette espèce risque l'extinction dans le courant de notre vie si la tendance n'est pas inversée, d'ici 1 à 2 décennies. »
Ça va vite, hein?
Ça va très vite. Comme pour illustrer ses propos, le parc national de la Garamba, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a annoncé lundi dernier également que 30 éléphants y avaient été abattus en à peine 2 semaines.
Aïe, aïe, aïe.
Le comptage des éléphants sur un continent gigantesque n'est pas une science exacte, mais il restait 470 000 individus à l'état sauvage en 2013, selon les chiffres présentés à la conférence de Kazan, contre 550 000 en 2006. Au rythme de 25 à 30 000 animaux abattus par an, la mortalité surpasse désormais le taux de natalité de cet animal qui n'a qu'un petit à la fois après une gestation de 21 mois. Autrement dit, si la courbe ne s'inverse pas, l'éléphant d'Afrique est condamné à mort.
Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il tue autant d'éléphants? C'est effolant.
Bonne question, effectivement. Il semble que ce soit pour alimenter le marché de l'ivoire, essentiellement chinois.
Évidemment.
Le déclin est déjà particulièrement net en Afrique de l'Est, au Kenya et en Tanzanie. Des cartes des routes de l'ivoire élaborées par l'association Trafic, spécialisée dans la traque des exportations illégales d'espèces menacées, montre d'ailleurs clairement que c'est par les ports ou aéroports kényans et tanzaniens que la plus grande partie de l'ivoire de contrebande quitte l'Afrique. L'or blanc, c'est comme ça qu'on appelle l'ivoire, transite généralement par la Malaisie, le Vietnam, les Philippines ou Hong Kong, avant de gagner ses destinations finales, la Chine, et pour une moindre part, la Thaïlande. Là, les défenses d'éléphants abattus deviennent des bijoux, des objets d'art ou des sculptures qui sont très prisées des riches Asiatiques. Le ministre botswanais du tourisme et de la vie sauvage a d'ailleurs noté qu'au bout du compte, qu'on le veuille ou non, la solution et le résultat final sont entièrement entre les mains de la Chine. Durant la session à huis clos, un représentant chinois, on s'en doute bien, est intervenu pour demander qu'on arrête de placer son pays sur le banc des accusés et qu'on le considère comme un partenaire, ont rapporté des partisans à l'agence France-Presse. La Chine a plaidé ce délégué, aide financièrement des pays africains à former leurs équipes anti-braconnage et renforce sa propre législation pour éradiquer le trafic illégal d'ivoire.
Alors maintenant, quelles sont les solutions qui ont été envisagées pour renverser cette tendance?
Alors, plusieurs pays d'Afrique ont ensuite exposé leurs efforts. Renforcement des lois, coopération internationale, information des communautés rurales, etc. Côté ONG, les pessimistes notaient que les effets concrets des promesses ne sont pas encore visibles sur le terrain. Les optimistes, eux, préféraient voir une volonté politique inédite en Afrique de prendre enfin le problème au sérieux.
Enfin.
D'après une représentante de l'ONG Éléphants sans frontières, nous sommes au début des efforts, tout ne va pas se faire en un an, mais nous allons dans la bonne direction. Il faut encore améliorer la coordination entre les pays et à l'intérieur des pays, entre les différentes agences et institutions. Les éléphants ne connaissent pas les frontières. Il passe d'un pays à l'autre, d'une zone protégée à une zone à risque. C'est cela qu'il faut améliorer. Cette réunion était la deuxième sur le sujet, un an après une conférence similaire à Gaborone en 2014. Les États africains s'y étaient engagés à mettre en place 14 mesures urgentes, parmi lesquelles la classification du braconnage en crime grave, la tolérance zéro et la lutte contre la corruption. La lutte contre la pauvreté, qui figure dans cette liste de bonnes intentions, est aussi une composante essentielle de la conservation des éléphants, selon une étude présentée par Julien Blanc, ou Julien, Julien Blanc, délégué de la CITES, qui est la Convention internationale sur le trafic des espèces en danger. D'après ce spécialiste, dans les endroits où l'on observe les taux les plus élevés de mortalité infantile humaine, un indice qui sert d'indicateur de la pauvreté, on a aussi observé les niveaux les plus élevés de braconnage des éléphants. Je rappelle que c'était un article de Christophe Beaudufay de l'agence France Presse, publié le 23 mars.
Merci. Le bruit source d'énergie, téléphonie. Bientôt, les smartphones se rechargeront peut-être tout seuls, juste avec le bruit ambiant. C'est du moins ce qu'espèrent les chercheurs britanniques qui ont mis au point avec le fabricant Nokia un nanogénérateur à base d'oxyde de zinc. Il s'agit d'un dispositif qui convertit en électricité les moindres vibrations acoustiques. Et le bruit ambiant permet de créer une tension de 5 volts suffisante pour charger un smartphone.
Alors, au retour, on s'en va en Suède, on s'en va sur Mars et on y va par Air Canada avec des bagages de moins de 24 kilos.
Ouais.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Rebonjour. Et cette fois-ci, je vous emmène en Suède pour passer 48 heures à Göteborg. D'ailleurs, je m'excuse pour mes prononciations suédoises.
Ton prononciation suédoise n'est pas au point.
Ça va être n'importe quoi.
Il va falloir travailler pendant les vacances. Hein?
Probable. Alors, c'est un article de Jean-Christophe Laurence dans la presse du 14 mars 2015. Göteborg ne se limite pas à son port et son usine Volvo. Au-delà de ses activités industrielles, la deuxième ville de Suède s'est inventée une image cool qui n'a rien à envier à Stockholm. Située près de la frontière norvégienne, cette cité autrefois ouvrière s'épanouit dans le domaine des arts et du lifestyle avec ses restaurants primés, sa scène musicale, ses quartiers hipsters et son centre-ville traversé de canaux, de rues pavées et de tramways vieillots. Il n'en fallait pas plus pour tomber sous le charme, même en hors-saison. Alors, je vous amène pour 2 jours, en 6 minutes. Jour 1, 11h48. Göteborg est une ville tournée vers la mer. Pourquoi ne pas commencer par le port? Le musée maritime étant fermé en hiver, nous nous rabattons sur un des bateaux-bus qui sillonne le fleuve Gotha et ses rives plusieurs fois par jour. Le trajet qui part de la marina donne une vue privilégiée sur les chantiers navals, de même que sur la ville, qui se révèle ici sous un autre angle. Midi 30. Terminus au Klippan, ancien quartier industriel devenu quartier culturel en vogue. Les bâtiments de briques rouges qui nous accueillent à la sortie du bateau ont été construits au 18e siècle par un industriel anglais du nom de Carnegie. Certains ont été reconvertis en hôtels, d'autres en bureaux, en lofts et même en galeries d'art contemporain, dans le cas de Rådhusstein. Situé dans un secteur en friche, sous un pont, Rådhusstein est un favori de la faune branchée de Göteborg. On peut y manger le midi, y danser le week-end, sans parler des expositions et des événements qui y sont organisés.
Bon, on commence à avoir faim, là.
Oui, il est 14h30, alors retour au centre-ville pour le café Usaren, réputé pour ses cannelboules, les plus grosses brioches de Göteborg. Il y a 30 ans, ces pâtisseries coûtaient 5 couronnes. Elles en coûtent aujourd'hui 50, c'est-à-dire 7 $ canadiens.
Aïe, aïe, aïe.
Prix en hausse, comme beaucoup d'autres, dans cet ancien quartier ouvrier totalement embourgeoisé. 16 heures après avoir mangé. Le soleil monte le bout du nez. Profitons-en pour gravir les marches de la butte Skansberget, qui mène aux fortifications de Stransenkronen, le fortin à la couronne. J'espère que je ne massacre pas trop le suédois. Ce vestige du 17e siècle, au sommet duquel trône une version géante de la couronne royale de Suède, domine la ville et ses toits rouges et offre une vue imprenable sur la région. À 17 heures, on s'en va sur Landralagatan, la rue la plus cool de Göteborg. Si vous tripez vintage, frip hip, disque d'occasion, magasin punk, pub, ou resto branché, c'est ici que ça se passe. Göteborg est réputé pour sa scène musicale vibrante. Profitons-en pour trouver des albums d'artistes locaux. Notre préférence va au magasin Dirty Records, qui partage son local avec le Santo Domingo, un café équitable pour hipsters. On finit la soirée à 20 heures. Avec un peu d'énergie, on boucle la soirée au Agabion, haut lieu du cinéma de répertoire situé dans un coin de rue. Ce soir, on présente justement un film d'auteur suédois dans la tradition d'Ingmar Bergman. On n'y a rien compris. C'est parfait comme ça. Jour 2, 10 heures.
Bon, ben là, c'est le dimanche. À cette heure-là, on va visiter une église, éventuellement prier.
Un petit peu de ça, tu vas voir. Il pourrait faire plus beau. Qu'à cela ne tienne, on marche au gré du vent le long du canal en zigzag qui ceinture la vieille ville. La promenade nous mène droit à la Feskerkorka, ou si vous préférez, l'église aux poissons, un ancien culte à l'allure gothique bien connu à Göteborg. Choix de poissons et de fruits de mer à faire saliver. Il y a même un resto sur la mezzanine. Encore trop tôt, hélas, pour casser le crustacé. Cherchons ailleurs.
Pas question de prier, là.
Et non. À midi, de l'autre côté du canal, l'avenue principale nous mène au musée des arts décoratifs. On s'attendait à un temple du design scandinave, mais l'endroit s'avère chiche de ce côté. Le musée national, situé plus haut, est beaucoup plus convaincant pour ceux qui souhaitent se familiariser avec les grands peintres suédois et scandinaves. Intéressant mélange de contemporain et d'art plus ancien dans un bâtiment imposant situé au bout de l'avenue. À 16 heures, c'est l'incontournable si vous avez des enfants. Le complexe Universum se consacre sur 5 étages aux sciences naturelles. Un modèle de musée ludique et interactif où les petits comme les grands ne s'ennuieront pas. On y trouve un aquarium avec des requins, une forêt vierge sur 3 étages avec singes et oiseaux, une reconstitution de la période glaciaire avec mammouth grandeur nature. Ça, c'est assez spécial, il y a une mammouth grandeur nature.
Ouais.
Et des espaces de jeu complètement capotés qui stimuleront le corps et l'esprit. Des heures de plaisir. Là, à 19 heures, c'est pour moi. De l'Universium à l'Arena Scandinavium, il n'y a qu'un pas. Pourquoi pas un match de hockey?
Ah, ben oui.
D'accord.
C'est l'hiver, après tout. Ce soir, le Modo de Peter Forsberg, c'est un ancien joueur des Nordiques de Québec, visite le Frölunda de Göteborg. Une ambiance digne du Centre Bell, même si l'aréna est loin d'afficher complet. L'équipe locale l'emportera par un but, sous les cris des partisans et la pulsation des tam-tams amérindiens. On finit ça à 22 heures. Après, qu'est-ce qu'on fait après un match de hockey? On s'en va dans le plus vieux pub de Göteborg, chez Hallhallen, qui fêtera ses 115 ans cet été. C'est le dernier hall à bière de Suède qui a le droit de servir de l'alcool sans nourriture. Un passe-droit octroyé, dit-on, pour des raisons historiques. Bonne ambiance de pub anglais avec des tables de bois, déco antique et clientèle de tous les âges. Essayez la Porter Carnegie, une bière locale créée il y a 2 siècles par l'industriel anglais du même nom, dont vous aurez visité la veille les bâtiments dont je vous ai parlé. Une belle façon de clore le séjour. Alors, c'était l'article 48 heures à Göteborg, article de Jean-Christophe Laurence dans la presse du 14 mars 2015.
Thank you.
Alors, d'abord, on change de destination ici. D'abord, un premier article de la presse canadienne publié sur le site de Radio-Canada le 18 mars et dont le titre est « Julie Payette ne croit pas que la mission pour Mars pourra décoller d'ici 2025 ». L'astronaute québécoise Julie Payette estime que les participants à l'audacieux projet de mission en aller simple pour partir coloniser la planète Mars n'iront nulle part. Le projet néerlandais Mars One vise à établir une colonie sur Mars d'ici 2025. 6 Canadiens font partie de la plus récente liste de 100 volontaires qui sont toujours partants. Mais selon Julie Payette, la technologie ne permet tout simplement pas à ce projet de décoller d'ici 10 ans comme prévu. Selon l'astronaute, les milliers de candidats n'auront eu pour seul courage que de se porter volontaire, mais ils n'ont aucune chance de partir. Madame Payette a fait ses commentaires dans une allocution prononcée lors d'un symposium aérospatial qui se tenait pendant 3 jours au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, à Montréal. L'OACI s'est associée au Bureau des affaires spatiales des Nations unies pour se pencher sur l'émergence de vols commerciaux comme le tourisme spatial et les législations qui devraient être mises en place pour encadrer ces activités.
Est-ce que, selon l'article, la communauté scientifique a déjà publié quelque chose à ce sujet?
Pas nécessairement dans cet article-là, mais j'ai cherché, j'en ai trouvé un autre. Alors, je fais un lien avec un autre article récent de l'agence France Presse Washington sur le même sujet. Article qui a été publié, lui, le 14 octobre 2014 dans la presse.ca. Le titre de cet article, c'est « Aller simple sur Mars, les volontaires mourront après 68 jours ».
Bon, mais c'est pas trop rassurant, on
c'est
va pas partir.
Pas tellement.
Hein? J'ai même pas le courage de me proposer.
J'aime mieux Gothenburg. Alors, les courageux pionniers prêts à s'embarquer pour un aller simple, d'ailleurs, c'est un aller simple pour Mars, comme le prévoit la société néerlandaise Mars One, commenceront à mourir au bout de 68 jours, selon une très sérieuse étude scientifique parue récemment. 5 chercheurs en aéronautique du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, c'est le MIT, sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé les données scientifiques disponibles sur ce projet, qui doit aussi donner lieu à une émission de télé-réalité. La mort du premier pionnier arrivera approximativement au bout de 68 jours de mission par asphyxie, a écrit ce rapport de 35 pages qui analyse avec force graphique et formules mathématiques les ressources en oxygène, nourriture et technologies disponibles pour cette mission censée être autosuffisante.
Est-ce qu'elle donne d'autres informations, l'analyse en question?
Tout à fait. Les plantes...
Ça m'intéresse vraiment. Oh,
ça
parce
t'intéresse,
que
tu ne vas pas y aller. Hein?
Mais c'est juste pour l'esprit.
Juste pour te conforter dans ta décision.
Exactement.
Les plantes qui doivent nourrir les colons produiront trop d'oxygène et la technologie pour équilibrer l'atmosphère n'a pas encore été développée, disent les auteurs. De plus, les chercheurs ont calculé que les colons devront dépendre de plus en plus d'envois de pièces détachées dans le cadre d'une mission qui coûtera, dans le scénario le plus optimiste, quelque 4,5 milliards de dollars.
Pas donné, hein?
C'est pas donné.
Ça
une
vient
somme,
cher du thème, ça.
Tout à fait. Une somme qui ne cessera d'augmenter avec l'envoi d'autres équipages. Mars One est un projet lancé par son cofondateur et PDG, le néerlandais Bas Lansdorp, qui a pour but d'envoyer en 2024 une première équipe de 4 volontaires pour coloniser Mars sans retour possible après un voyage de 7 mois. Bas Lansdorp a réfuté les chiffres du rapport des chercheurs du MIT, arguant qu'il utilisait des données incomplètes. Il concède néanmoins que la question des pièces détachées est un problème. Il dit d'ailleurs que le plus grand défi de Mars One est de garder tout en état de marche. Concernant l'oxygène, la direction de Mars One a indiqué ne pas être d'accord sur le fait que la technologie n'est pour l'essentiel pas prête. D'après son cofondateur, le système doit encore être testé, mais la technologie est là. Plus de 200 000 personnes originaires de 140 pays se sont portés volontaires pour faire partie du projet.
Mon Dieu, il y en a quelques-uns.
Il y en a quelques-uns.
J'aurais pas cru qu'il y avait tant de personnes qui étaient candidates au suicide.
Alors, projet qui fait de nombreux sceptiques.
Quand même.
Mais a néanmoins reçu le soutien du lauréat néerlandais du Nobel de physique en 1999. Un accord a été signé en juin dernier avec la société Endemol, qui produit de nombreuses émissions de télé-réalité pour que soit filmé le processus de sélection et l'entraînement des pionniers. Mmh. Alors, je rappelle que ces deux articles ont été publiés le 18 mars sur le site de Radio-Canada pour l'article sur l'intervention de Julie Payette et le 14 octobre 2014 sur le site de lapresse.ca pour l'article sur le rapport des scientifiques du MIT.
Mesdames et messieurs, le capitaine et son équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce Boeing 747. Veuillez attacher vos ceintures, redresser vos sièges et cesser de fumer pour le temps du décollage. Merci de votre attention et bon vol.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour cette chanson « Les hauts et les bas d'une hôtesse de l'air » de Diane Dufresne. Belle introduction à mon sujet, qui est donc quelques trucs. Marie et Yvan vont voyager, bien sûr, bientôt. Oui. Alors, c'est juste quelques petits trucs pour voyager débranché.
Ça va être important. Bon
pour moi. Oui, hein? Alors oui. Écoutez attentivement. Donc, on sait que maintenant, c'est fini le temps où les vacances permettent de passer quelques jours sans contact avec le bureau. Qu'aujourd'hui, quand on arrive à l'hôtel, la première chose qu'on nous donne, c'est notre clé et en même temps, le code Wi-Fi.
Oui, c'est sûr.
Voilà, c'est sûr. Hein? Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez mis les pieds dans l'hôtel?
On entre le code.
Voilà, c'est ça. On ouvre le téléphone, on met des photos, on lit les messages, on tombe même sur quelques communications qui vous ramènent au bureau tout de suite. On pense à tout le moins.
Plus maintenant.
Plus maintenant? Bravo, tant mieux pour vous. Et quand même, ce qu'il y a, c'est qu'une étude qui a été réalisée révèle que plus du tiers des Québécois ont vérifié régulièrement ou constamment leur courriel ou même consulté leur boîte vocale du bureau alors qu'ils étaient en vacances.
Alors dans cette étude dont tu parles, est-ce qu'on explique pourquoi on en est arrivé là?
Oui, parce que ça, c'est intéressant hein, de savoir pourquoi on en est là. Et c'est le docteur Serge Marquis qui donne des réponses possibles. Il donne deux raisons. Il dit qu'il y a certaines personnes qui vivent un grand stress si elles n'ont pas le contrôle sur tout ce qui se passe. Et comme l'être humain a une tendance naturelle à imaginer des scénarios catastrophes, être loin du bureau devient stressant et plus que reposant pour certains d'entre nous. Avec ces gens, alors avant, les gens faisaient un téléphone une ou deux fois par semaine pendant les vacances. C'est suffisant. Maintenant, ils consultent régulièrement leur courriel. Une autre raison qu'il met en valeur, il dit qu'on peut expliquer cet attrait pour le téléphone et les réseaux sociaux qui sont liés en vacances, c'est parce que certaines personnes ont besoin d'être stimulées pour ne pas s'ennuyer. Alors, voilà les deux raisons qui sont annoncées. Et il dit aussi que cela se traduit par une incapacité à savourer le moment présent.
OK. Là, on a posé le diagnostic, même si on pourrait mettre des noms. Maintenant, est-ce que l'article propose des solutions?
Oui, il y en a plusieurs. Alors, je vais vous proposer celles qui sont celles que j'ai trouvées les plus intéressantes. Ils disent que, par exemple, si vous partez pour un week-end en famille ou en amoureux, ben, au lieu d'emporter votre smartphone, pour un week-end, vous pouvez emporter un appareil photo. Mmh. Bon. C'est sûr que ça peut en angoisser certains, mais au moins, enlevez les notifications sonores qui vous avertissent à l'arrivée d'un message. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Oui, moi, je trouve ça tellement stressant. Je suis avec quelqu'un et puis, ding! Bon, c'est comme ça. si vous partez plusieurs jours, par contre, alors là, vérifiez vos courriels une fois par jour, c'est autorisé, mais à un moment précis que vous déterminerez. C'est-à-dire, ça peut être le matin, ça peut être quand vous voulez, mais une fois par jour, pas plus, prenez la décision, d'accord?
Okay.
Soyez réaliste quand même. Si vous êtes dépendant des technologies avant votre voyage, vous allez l'être aussi pendant vos vacances. Mmh. Alors, les gens ont souvent une idée fantaisiste en pensant qu'ils seront très différents en vacances, mais ce n'est pas du tout le cas. Sachez qu'il faut 2 ou 3 jours pour décrocher. Alors, utilisez votre téléphone avec parcimonie au début des vacances. Prenez tout de suite la bonne habitude.
Mmh.
Une autre proposition, je sais que ça ne vous concerne pas, puisque Yvan vient de le préciser tout à l'heure. Terminez vos dossiers au bureau avant de partir et réglez votre message d'absence afin que vos collègues, clients, sachent que vous êtes en vacances.
Mmh.
Le docteur Marquis conseille à ceux qui vivent un stress à l'idée d'être débranchés d'y aller graduellement. On ne va pas se stresser non plus pour débrancher. Donc, allez-y graduellement.
Alors, est-ce qu'on peut s'aider d'une certaine façon pour s'obliger à débrancher?
Oui, on peut s'aider, justement. Puis là, il y a plusieurs propositions qui sont faites dans l'article. Alors, ils disent où aller? Alors, ce qu'ils proposent, par exemple, ce sont les parcs nationaux, les réserves fauniques. Il y a des réseaux dans les parcs, mais quelques jours de camping se passeront probablement loin de vos courriels. Si on est en croisière, ça c'est vrai qu'on peut acheter un forfait Wi-Fi, mais c'est souvent à prix d'or, alors n'augmentez pas le prix de votre voyage, hein. En plus, la communication coupe parfois, alors dans ces conditions, voguez débranché.
On peut lancer le téléphone à l'eau aussi.
Ah ben ça, c'est une idée, mais ça ne va pas diminuer le coût de votre voyage. Hein? À Cuba, par exemple, l'accès au réseau est cher et il est inégal, et l'accès est difficile, l'accès Internet est difficile. Bon, une autre solution qui est assez rigolote quand même, aller dans la jungle.
C'est sûr que voilà. Le réseau Wi-Fi dans la jungle.
Voilà. Non. Okay. Hein, les réseaux cellulaires, c'est pas très, très fréquent.
D'autres préoccupations à cet endroit-là.
Il y a d'autres préoccupations, voilà, c'est ça. En France, par exemple, il y a une suggestion pour les voyageurs qui ne peuvent pas résister à la tentation de consulter leurs écrans. Il y a des hôtels qui ont créé des vacances de détox numérique. C'est pas une blague, hein?
Non, c'est vrai.
Alors, il propose un forfait qui allie bien-être, repos et obligation pour le client de déposer son téléphone et tous ses appareils électroniques dans un coffre-fort à l'arrivée. La dernière proposition, vous avez entendu, hein? Pensez-y, comme ça vous allez pouvoir vous parler quand vous allez être en vacances.
On y pense beaucoup, là.
D'accord. Alors, une autre proposition, là, c'est carrément en détox, hein? C'est vraiment pour se détoxer. C'est un organisme qui offre des vacances qui sont mélange entre retraite, yoga, cure de désintoxication, atelier croissance personnelle. Voilà, c'était donc un article qui était « Quelques trucs pour voyager débranché » dans la presse du 21 mars par Stéphanie Vallet. Ben, je vous avais promis un autre petit article qui est le prix d'un bagage de 24 kilos à bord d'Air Canada. C'est 125 dollars.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Alors, sachez-le. Donc, c'est un prix qui est donc donné. Le premier bagage, il est 25 dollars, jusqu'à 23 kilos. Mais dès que vous dépassez 23 kilos, vous avez un supplément de 100 dollars jusqu'à, je pense, 32 kilos. Les taxes de vente, évidemment, sont en plus. Alors, c'est une règle de notre bonne compagnie. Oui, c'est jusqu'à 32 kilos. Pour le pratico-pratique, je vous précise que si à la pesée, votre bagage dépasse 23 kilos, vous devez vous rendre à la caisse, puis le reçu en main passer récupérer votre passeport et votre carte d'embarquement.
Ah bon.
Voilà, c'est ça. Alors, quand même, pour éviter toute surprise, il est possible d'utiliser au préalable la balance qui est mise gracieusement, elle, à la disposition des voyageurs par l'aéroport. Si vous voyagez à deux, Marie et Yvan, pour ne pas payer deux fois le supplément de 100 dollars, soyez rusés. Mettez la valise, les objets qui sont trop lourds, dans une seule valise, comme ça, vous n'aurez qu'une seule fois le 100 dollars à payer.
Je ne sais pas de quoi tu parles.
D'accord, OK. Donc, vous voyagez léger, n'est-ce pas?
Pas tellement, non.
Mais pour le moment, vous avez voyagé en voiture, alors oui, c'est pas trop gênant. Ça, hein? Bon, on notera que la règle en vigueur chez Air Canada s'applique également chez Air Canada Rouge, qui est la filiale supposément à bas coût. Elle assure à présent les vols réguliers vers certaines destinations soleil.
Alors, ce matin, je dis un gros merci à mes deux comparses. J'étais en très charmante compagnie avec André et Marie.
Merci.
Je dis un grand merci aussi à Jean-Sébastien qui n'arrête pas de nous faire toutes sortes de signes et de rire avec nous de toutes nos folies.
C'est tellement agréable de l'avoir, hein?
Oui, tout à fait. Je vous réfère au site canalm.org pour avoir accès à toutes les émissions de Canal M. Et là, avec le nouveau site, ça va vraiment très bien. On vous demande des commentaires. D'ailleurs, nous, on va commencer à écrire les commentaires sur Canal M à commercialvusezvoix.com.
Voilà, on n'en a pas, alors on va.
Et on vous dit au revoir. Peut-être que la semaine prochaine, vous allez avoir la savoureuse voix d'André juste pour vous. Alors, à la semaine prochaine.
Assure encore, il exagère, hein?